5. Marcher sans sac à dos était plus facile. Tant mieux. En revanche, ne pas voir Radar près de moi me tracassait. Mais je savais qu'elle était en sécurité avec Dora. Mon portable étant hors service ici, j'avais du mal à évaluer l'heure. Et à cause du ciel chargé en permanence, je ne pouvais même pas m'orienter grâce au soleil, simple masse floue derrière les nuages. Je décidai d'utiliser la vieille méthode des pionniers pour calculer le temps et la distance. Après 3 ou 4 regards, si je n'apercevais toujours aucun signe de garde-doigt, je rebrousserais chemin. En marchant, je repensais à ce poème sur le panneau. Un menu de restaurant aurait été affiché des deux côtés pour être vu par les gens qui allaient et venaient. Le fait que le poème se trouve d'un seul côté indiquait que le trafic sur la grande voie s'effectuait en sens unique, vers la maison que j'étais censé trouver. Je ne comprenais pas pourquoi, mais peut-être que ce garde-doigt pourrait me l'expliquer. À condition que cette créature existe réellement. J'avais atteint la fin de mon 3e regard, là où la route montait et franchissait un pont de bois bossu. Dessous, le lit de la rivière était à sec, quand j'entendis des cris d'oiseaux. En arrivant au point culminant du pont, j'aperçus une maison sur ma droite. Du côté gauche de la route, il y avait d'autres coquelicots. Les bois avaient dévalé la pente jusqu'au bord du champ. La maison, beaucoup plus grande que le cottage de la femme aux chaussures, ressemblait au ranch qu'on voyait dans les westerns sur TCM, et elle possédait des dépendances, 2 grandes et 1 petite. La plus grande devait être une grange. Il s'agissait d'une ferme. Derrière s'étendait un vaste jardin où s'alignaient des rangées de plantations. Je ne pouvais pas toutes les identifier, je n'étais pas maraîcher, mais je savais reconnaître des épis de maïs. Tous ces bâtiments étaient aussi vieux et gris que la peau de la femme aux chaussures, mais ils paraissaient solides. Les criaillements provenaient d'une 12 d'oies, au minimum, qui entouraient une femme vêtue d'une robe bleue et d'un tablier blanc. D'une main, elle levait son tablier. De l'autre, elle répandait des poignées de graines, sur lesquelles se jetaient voracement les oies dans un concert de battements d'ailes. Non loin de là, un cheval blanc, vieux et efflanqué, plongeait la tête dans une auge en fer blanc. Le mot « éparvin » me vint à l'esprit. Mais ne connaissant pas son sens exact, je ne savais pas s'il convenait. Un papillon de taille normale, c'était un soulagement, s'était posé sur sa tête. Il s'envola lorsque j'approchais. La femme avait dû m'apercevoir du coin de l'œil car elle leva la tête et se figea, une main plongée dans la poche de son tablier, tandis que les oies se bousculaient et jouaient des ailes à ses pieds en cacardant pour réclamer à manger. Je m'immobilisais moi aussi, car je compris soudain ce que Dora avait tenté de me dire. Gardeuse d'oie, garde-doie. Mais ce n'était pas la seule cause de ma stupeur. La femme avait d'épais cheveux blonds foncés, veinés de mèches plus claires qui tombaient sur ses épaules. Ses grands yeux bleus offraient un contraste saisissant avec les 2 fentes presque effacées de Dora. Elle avait des joues roses, elle était jeune, et pas juste jolie, elle était belle. Une seule chose venait gâcher sa beauté parfaite. Entre son nez et son menton, il n'y avait qu'un trait blanc boursouflé, comme la cicatrice d'une blessure grave refermée depuis longtemps. À l'extrémité droite, une tache rouge, de la taille d'une pièce de 10 cents, ressemblait à un minuscule bouton de rose pas encore éclos. La garde-doie n'avait pas de bouche. 6. En me voyant approcher, elle fit un pas en direction d'une des dépendances. Un dortoir, peut-être. 2 hommes à la peau grise en sortirent. L'un des 2 tenait une fourche. Je m'arrêtai, me souvenant que je n'étais pas seulement un étranger, j'étais armé. Je levai les mains. « Je ne vous veux pas de mal, c'est Dora qui m'envoie !» La gardeuse d'oie demeura immobile pendant quelques secondes encore, indécise. Puis sa main ressortit de son tablier et elle continua à distribuer des graines et du maïs. Avec son autre main, elle fit signe d'abord à ses garçons de ferme de retourner à l'intérieur, puis à moi d'approcher. J'obéis, lentement, en gardant les mains levées. Trois oies vinrent à ma rencontre en battant des ailes et en criaillant. Voyant que j'avais les mains vides, elles s'empressèrent de retourner vers la jeune femme. Le cheval regarda autour de lui et poursuivit son déjeuner. Ou plutôt son dîner, car la tache floue du soleil descendait vers les bois de l'autre côté de la route. La fille continua à nourrir ses oies, indifférente désormais, la stupeur initiale passée. Je m'arrêtai à la lisière de son terrain, sans savoir quoi dire. Je songeais que la vieille amie de Radar s'était moquée de moi. Quand je lui avais demandé si cette mystérieuse personne savait parler, elle avait hoché la tête en souriant. Ah, quelle bonne farce ! Envoyer le gamin interroger une jeune femme sans bouche. « Je suis un étranger !» dis-je. Une remarque stupide, car elle le voyait bien par elle-même. Mais elle était tellement belle. En un sens, la cicatrice à la place de la bouche et la tache rouge à côté la rendaient encore plus belle. Je sais, ça doit paraître bizarre, voire pervers, mais c'était la vérité. Je suis... Aïe ! Une des oies m'avait picoré la cheville. Cela parut l'amuser. Elle glissa la main dans son tablier pour rassembler les dernières graines dans son petit poing qu'elle tendit vers moi. J'ouvris la main et elle versa dans ma paume ce qui ressemblait à du blé mélangé à des grains de maïs éclatés. Elle se servit de son autre main pour tenir la mienne. Le contact de ses doigts produisit comme une légère décharge électrique. J'étais sous le charme. N'importe quel garçon de mon âge l'aurait été, je crois. « Je suis ici parce que ma chienne est vieille et mon ami m'a dit qu'en ville, je montrais l'horizon, il existait un moyen de la faire rajeunir. Alors, j'ai décidé d'essayer. J'ai des milliers de questions, mais je vois que vous ne pouvez pas. » Je m'arrêtai là. Inutile de m'enfoncer davantage. Je lançai ma poignée de graines aux oies. J'avais les joues en feu. Cela aussi parut l'amuser. Elle laissa retomber son tablier et l'épousseta. Les oies se précipitèrent pour picorer les dernières miettes poussiéreuses avant de repartir vers la grange en cancanant. La jeune femme leva les bras au-dessus de sa tête, ce qui eut pour effet de tendre le tissu de sa robe sur sa poitrine admirable. « Allez-y, jetez-moi la première pierre. » Elle tapa deux fois dans ses mains. Le vieux cheval blanc leva la tête et vint vers elle à pas lents. Je remarquai que sa crinière avait été tressée avec des éclats de verre colorés et des rubans. Un ornement qui laissait supposer que c'était une jument. Dans la seconde qui suivit, j'en eus confirmation, car lorsque le cheval se mit à parler, c'était avec une voix féminine. « Je répondrai à quelques-unes de tes questions, car c'est Dora qui t'envoie, et parce que ma maîtresse connaît la ceinture avec les jolies pierres bleues que tu portes. » La jument semblait se désintéresser totalement de la ceinture ou du revolver dans son étui. Elle s'était tournée en direction de la route et des arbres au-delà. C'était la gardeuse d'oie qui regardait la ceinture ornée de concho. Puis elle leva vers moi ses yeux bleus brillants. « Tu viens de la part d'Adrienne ?» La voix provenait de la jument blanche, des environs du moins, mais je voyais les muscles bouger dans la gorge de la fille et autour de ce qui avait été sa bouche. « Vous êtes ventriloque ?» Elle me sourit avec ses yeux et me prit la main, ce qui provoqua une nouvelle décharge. « Viens. » La gardeuse d'oie m'entraîna derrière la ferme.